1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça va?
Oui, ça va et toi?
Ouais, très bien.
Cool.
Deuxième émission autour de l'intelligence artificielle.
Yes.
Bon, on a parlé d'Isaac Asimov la semaine dernière. Tu nous as parlé de Isaac Asimov. Et cette semaine, je te propose qu'on explore l'intelligence artificielle au travers de la pensée de différentes personnes et en premier lieu, Eric Sadin.
Et qui est-ce que tu connais Eric Sadin? Garçon.
Non. Alors, en fait, c'est un philosophe et il a sorti plusieurs bouquins, mais le dernier paru, en tous les cas en poche, ça s'appelle La vie spectrale et je suis en train de le lire. J'ai fini les 50 premières pages où, en fait, il expose le plan de son ouvrage où il y a l'essentiel en 50 pages. C'est assez dense, mais c'est très passionnant.
50 pages pour expliquer un plan?
Ouais, en fait, c'est au-delà du plan, on va dire.
D'accord, ok.
Il expose...
hyper synthétique, le mec.
Non, mais parce qu'il est extrêmement spécialiste de ce domaine, c'est son domaine de pensée. Moi, je le trouve très pertinent parce que au-delà de l'intelligence artificielle, en fait, ce qu'il explore, c'est tous les rapports de pouvoir, de puissance, de domination qu'il peut y avoir derrière, bien entendu. C'est pour ça que ça pensait à un tel intérêt. Et je pense que ça fait partie des...
réflexions qu'on doit mener.
Oui, et puis des penseurs, pour moi, les plus pertinents aujourd'hui en la matière.
Tu as un son de lui?
Ouais, j'en ai plusieurs même, ouais. J'en ai deux. Le premier, il est extrait d'un échange qu'il a eu sur la chaîne du Figaro. Je suis allé en milieu hostile pour...
voyage en terrain inconnu.
C'est ça. Et il est face à Raphaël Enthoven, qu'on ne va pas entendre, hein, je te rassure.
Ah, cool.
Mais par contre, lui, en gros... il nous donne plus ou moins une définition, entre guillemets, sa définition de l'intelligence artificielle, on l'écoute.
La définition, c'est que nous vivons un changement de statut des technologies numériques, qui sont plus seulement destinées, comme elles le sont depuis des décennies, à la collecte, au stockage, à l'indexation et la manipulation automatisée, et la manipulation à diverses fins de l'information. Si ces fonctionnalités... Je vois que vous froncez les sourcils, mais c'est très simple. Si ces fonctionnalités...
Je fronce moins les sourcils quand j'écoute, ça veut dire...
Si ces fonctionnalités continuent d'exister, depuis le tournant des années 2010, disons là, le mi-temps des années 2000, il y a un autre embranchement dans l'histoire des technologies numériques qui est apparu. C'est ça qui est extrêmement important. Je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus clair possible. C'est que c'est d'autres fonctions qui ont été affectées à ces technologies. J'ai presque envie de dire une autre mission. C'est celle d'expertiser le réel. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est une puissance d'expertise. Mmh. C'est-à-dire, de plus en plus en temps réel, de pans de plus en plus étendus du réel et qui nous révèle souvent des phénomènes qui étaient jusque-là masqués à notre conscience. Vous allez dire, mais de quoi il parle? Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple. Waze, que tout le monde utilise, hein, qui fait quoi? Qui expertise...
Celle de conduite.
Voilà. Qui expertise en temps réel l'état du trafic, qui traite un nombre d'informations qu'aucun humain ne pourrait traiter à de telles vitesses et de tels volumes. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça expertise ça signale l'état du trafic, mais aussi ça encourage d'agir de telle manière plutôt que telle manière. Donc l'intelligence artificielle, c'est une puissance d'expertise, mais de recommandation. Et dès que je dis ça, on saisit les conséquences et l'ampleur de la portée politico-juridique, c'est-à-dire des systèmes, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des systèmes technologiques, nous conseillent, enjoignent, suggèrent, obligent, il y a des cas, logistique Amazon, les entrepôts de logistique, d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. C'est ça le cœur de l'intelligence artificielle. Et pour terminer sur ce point-là, ça c'est ce que j'appellerais dans mon jargon très simple, la dimension cognitive et organisationnelle de l'intelligence artificielle. Ça connaît et ça organise. Depuis un an et demi, est apparu un autre moment, comme si ça ne suffisait pas. Déjà, on n'avait pas assez de problèmes et de questions abyssales qui se posent à nous. Maintenant, nous vivons le moment que j'appelle le tournant intelligentuel et créatif de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qui ne fait plus qu'expertiser et envoyer des signaux, mais qui produit des symboles.
Tu utilises les IA génératives, Ghislain ?
Assez peu.
Ouais.
Je m'y suis pas trop penché encore.
Ouais.
Un petit peu, mais pas plus que ça. J'ai testé pour voir des trucs et.
Ok.
Alors, je pense que je suis pas très fort en prompt et du coup, je suis jamais très satisfait.
Mm-hmm. Bah, c'est quelque part, je trouve ça rassurant. Parce que. Enfin, effectivement, c'est un outil qui peut être. Enfin, moi, je l'utilise un petit peu dans mon cadre professionnel. Je l'ai découvert assez récemment. Je trouve qu'effectivement, les résultats sont assez bluffants quand il s'agit, je sais pas, de rédiger des comptes rendus ou des choses comme ça. Mais effectivement, ça pose quand même pas mal de questions. En fait, on délègue certaines de nos aptitudes parce que ça, finalement, c'est plutôt efficace sur des tâches administrative ou rédactionnelle.
Ça. Où on n'a pas besoin d'humains, en fait.
Voilà. Où, effectivement, on peut gagner du temps. Donc, dans le monde entrepreneurial, effectivement, ça ne m'étonne pas que ça prenne de plus en plus de poids. Mais du coup, ça a des conséquences derrière, parce qu'on efface, effectivement, une partie des activités humaines, quoi. Donc, ça veut dire chômage, etc. Donc, c'est pas sans enjeu, tout ça.
Oui, bien sûr.
Je te propose qu'on écoute un second son d'Éric Sadin où effectivement il décrypte finalement les rapports de domination qu'il y a derrière et finalement aux mains des puissants qui détiennent l'IA, ça a tout un tas de conséquences sur nos modes organisationnels.
Ces systèmes d'intelligence artificielle, dans leur puissance d'expertise et d'orientation, ça a imprégné tout le champ du management, hein, mais pas seulement, tout le champ de la société, c'est-à-dire que dans l'administration, dans la justice, dans l'hôpital, dans nos rapports à ce qu'est le commerce, il y a quelque chose comme des voix qui nous parlent, comme une vérité qui nous parle. Une vérité qui nous parle, qui est supposée regarder le bon chemin emprunté, hein, et le fait que de plus en plus, alors moi je veux bien qu'on échange avec des contradicteurs, mais là c'est un fait, que de plus en plus, des systèmes parlent à notre place. C'est ça qui est à l'œuvre avec l'intelligence artificielle. Et des systèmes qui parlent à notre place en vue des deux principales visées que j'ai énoncées. Et maintenant, ce que nous voyons avec l'avènement des IA génératives, c'est non seulement des systèmes qui parlent à notre place, mais des systèmes qui parlent en notre nom. Alors là, c'est comme si c'était une dernière frontière qui était franchie dans des systèmes qui régentent, qui aussi se saisissent de nos facultés, c'est-à-dire de nous déterminer librement, d'agir individuellement comme on le souhaite, relativement à un cadre de loi, de règlements qui sont communs, relativement à des collectifs, de nous déterminer librement. Ce que nous avons vécu depuis une quarantaine d'années, et plus encore depuis une dizaine d'années, c'est des systèmes qui portent une idéologie, qui aussi portent le postulat que l'automatisation des affaires humaines, l'automatisation de l'action humaine, c'est faire mieux, organiser mieux le cours des choses que si c'était les humains qui le faisaient. C'est ça aussi le postulat qu'il faut voir. Et c'est le postulat est fondé sur le fait que nous sommes profondément lacunaires, je l'avais dit ça en 2018 dans le cadre de notre entretien, mais que des systèmes de plus en plus omniscients savent mieux que nous-mêmes ce que nous devons faire.
Tu as de l'eau juste à ta gauche.
Merci. Savent mieux que nous-mêmes ce que nous devons faire. Et ce moment-là qui ne cesse de s'intensifier, c'est-à-dire des technologies qui parlent à notre place, mais qui aussi, en faisant ça, procèdent de d'une automatisation, mais ce n'est pas seulement automatisation. Il y a une donnée qu'il faut qu'on ait à l'esprit, c'est qui dit automatisation dit toujours privatisation. C'est-à-dire, là où il y a automatisation, il y a génération de nouveaux modèles économiques, nouveaux gisements de profit, avec le fait d'évacuer les humains et le fait que de nouveaux intermédiaires et de nouveaux chantiers économiques se mettent en place. Et maintenant, le moment que nous vivons, qui est extrêmement troublant, dont je remarque qu'il a connu une banalisation qu'il n'aurait pas dû connaître, on va en parler, c'est le fait que maintenant, des systèmes parlent entre nous.
Alors ça, c'est extrait d'une interview sur Thinkerview qu'il a donnée il y a un an à peu près. Ça, il y en a pour une heure et demie, deux heures. Mais franchement, là, j'ai extrait un peu la substantifique moelle de son discours. Et notamment, à un moment, il évoque le fait que ces systèmes portent une idéologie.
Oui, bien sûr.
Et ça, je pense que c'est vraiment clé, quoi. Et faut qu'on le garde toujours en tête, ça.
Oui, oui, oui. Ben, il suffit de voir concrètement. Hein. Concrètement, voilà, Elon Musk, il fait une intelligence artificielle.
Ouais, ouais, ouais.
D'accord.
Ouais.
Bon, cette intelligence artificielle sera d'extrême droite. Le gouvernement chinois avec DeepSeek.
Ouais, ouais.
DeepSeek, c'est une IA qui est du gouvernement chinois.
Et tout le contrôle social qui a été mis en place derrière, ouais, c'est totalement.
Bien sûr. Et par exemple, on trouve aucune information sur Tiananmen, cette intelligence artificielle.
Tout à fait.
Donc, et ça, c'est la face immergée de l'iceberg.
Ouais, exactement. Alors, dans le prolongement de ce que nous dit Eric Sadin, il y a aussi quelqu'un que je trouve passionnant, c'est Asma Mala. Et je te propose qu'on l'écoute dans un débat qu'elle a eu. On a écouté un son la semaine dernière avec Aurélien Barraud. Donc, Asma Mala, dans le prolongement de ce qu'évoque Eric Sadin.
À la question de la poésie par rapport à ce nouveau rapport de force, à ce nouvel ordre mondial, à ces inégalités, à aussi au déclassement européen là-dedans, puisque d'acteurs technologiques, nous n'en avons point, puisque de vision politique, encore moins, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La poésie, bien sûr, oui, qui est une éthique, une philosophie, un rapport au monde, ne pas rester étranger à son monde, évidemment. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est globalement isolé. Isolé derrière des écrans. Mais attention, ce ne sont pas les écrans qui ont créé l'isolement. Ces technologies-là s'insèrent dans un système économique et idéologique qui est beaucoup plus large et qui est bien antérieur à la question technologique. Hannah Arendt déjà disait en fait l'isolement, c'est-à-dire où nous ne serions plus que non pas des citoyens ou même des êtres pensants, disons, mais des atomes perdus dans la masse, c'était l'autoroute vers les totalitarismes. Et c'était bien avant Elon Musk et c'était bien avant ChatGPT. Et en fait, ils ne sont que un point culminant d'un dysfonctionnement qui est très antérieur à ça, qui est très antérieur. Et donc, si on n'a pas une vision systémique, englobante des dysfonctionnements, et donc de ce qu'on aimerait construire ou reconstruire, ça va être très, très difficile, parce que, précisément, la technologie est un peu ce climax de l'isolement, en fait, où chacun est isolé. On l'avait vu pendant le Covid. Et qu'est-ce qui a permis une espèce d'obéissance massive ? C'était bien les écrans, puisqu'en fait, on était tous occupés à faire un peu n'importe quoi, ou à regarder des séries, à végéter, etc. Et donc, c'était bien ça, en fait, qui a permis une forme de contrôle social, puisqu'il s'agit de ça, de contrôle social. D'obtenir une obéissance, d'obtenir une neutralisation de la révolte, avant même de parler de révolution, juste de la révolte, dire « attends, il y a un truc qui ne va pas ». Donc la poésie, oui, mais à condition de la reconstruction du lien. Et donc, et je terminerai là, ça veut donc dire que si nos vies numériques, celles d'être seules, de la solitude extrême, est la norme, ça veut donc dire en creux que le réel devient la poche de résistance. Vous avez cette inversion-là qui se fait. Et donc, il y a peut-être un réinvestissement du monde physique, ce qu'on est en train de faire, par exemple, là, tout de suite, aujourd'hui, comme acte de résistance. Se retrouver, se parler, les lieux physiques, l'école, l'université, ces endroits-là, ces moments-là, ces rituels-là, où tout d'un coup, on se retrouve ensemble pour penser ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réellement massifier et investir. Sinon, la poésie seule derrière son écran, ça ne marchera jamais.
Ouais, c'est vachement intéressant, ça.
Oui. Bah oui, parce qu'en fait, plus généralement, elle questionne aussi notre rapport au monde au-delà,
ouais, bien sûr.
En fait, de ce que peut nous apporter l'IA, ce que peut nous apporter en bon comme en mauvais, l'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, effectivement, les problèmes, les questionnements auxquels on est confrontés, ils sont en fait antérieurs à l'apparition de l'intelligence artificielle. Sauf que, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, ceux qui la développent, ceux qui la mettent en place selon des modalités bien spécifiques, en fait, quelque part, ils cherchent à parachever ce dans quoi on est déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire un techno-libéralisme qui, en fait, nous isole de plus en plus.
De plus en plus, oui, bien sûr. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est important d'organiser des événements en présentiel, s'il
exactement,
vous plaît.
Exactement.
Où on puisse se retrouver, penser, échanger.
Tout à fait. Une pause musicale et après on continue à parler d'IA, mais sur un mode un peu différent.
Ok. Bota na boca, bota na cara, bota onde quis, 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 quis.
Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. Bota na boca, bota.
pas reconnu tout de suite. Hein.
Ben non, pas tout de suite.
Hein, il sort un peu de ses sentiers battus.
Et c'est bien.
Ouais, c'est bien. The Weeknd featuring Anita.
Oh yes.
Ça s'appelle Sao Paulo. Le titre.
Oui.
C'est le meilleur titre de l'album de The Weeknd, selon moi.
Selon toi. Bon, à écouter, je vais faire une opinion.
Ouais.
On parle toujours IA sur SLP.
On parle IA sur SLP et alors, IA et l'IA et l'art.
L'IA et l'art.
Ouais.
C'est joli.
C'est joli.
IA
hein.
et l'art.
Ouais. Alors, en fait, il y a quelques mois, quelques années même, parce que ça se passe en août 2022.
Ouais.
Théâtre d'opéra spatial, c'est le titre d'une œuvre, d'une toile, qui en fait a généré un gros débat aux États-Unis, parce qu'en fait cette toile, elle a remporté le premier prix de la foire d'État du Colorado.
Ouais, foire super importante.
Foire super importante. Non, mais en fait, elle a défrayé la chronique parce que c'est la première toile générée par IA générative qui, en fait, a gagné un prix.
A gagné un prix.
Sauf qu'elle a été présentée, en fait, ben, par un artiste qui s'appelle Jason Allen.
Ouais.
Et au départ, avant qu'elle ne soit primée, la plupart des jurés ne savaient pas qu'elle avait été générée par IA. Je te propose qu'on écoute, en fait, premièrement, le témoignage donc de Jason Allen, qui est l'auteur de cette toile, enfin c'est lui qui a utilisé une IA générative pour créer cette toile. Il va nous expliquer un petit peu comment. Et on enchaînera avec le témoignage d'un historien de l'art qui s'appelle Paul Arden, qui évoque en gros
son point de vue d'historien de l'art.
Exactement. On les écoute et on en reparle après.
Je travaillais sur Midjourney depuis environ un mois. Je me suis mis à rêver. Je voulais voir des femmes vêtues de robes victoriennes portant des casques spatiaux. Je n'y avais jamais pensé ni imaginé ça auparavant. J'ai pensé que ce serait cool d'essayer ça pour démarrer. J'ai donc écrit divers prompts en rapport avec ces termes, peut-être une douzaine de prompts différents. J'ai commencé le prompt par une description globale où j'utilise une terminologie artistique spectaculaire et sophistiquée, de nombreux adjectifs et des mots-clés pour développer ce prompt comme le ferait un réalisateur. Je vais indiquer le type de scène que je souhaite voir, ce qui a également un effet sur la composition recherchée. Enfin, je mets aussi quelques mots-clés sur le style de l'époque que l'œuvre d'art doit représenter. Donc le jour où je suis arrivé à mon prompt définitif, j'avais déjà travaillé plus de 80 heures. Et puis quand j'ai trouvé celui qui me plaisait vraiment, j'ai exécuté cette séquence entre 600 et 900 fois. Parmi ces centaines d'images, j'ai finalement choisi mon top 3 et je les ai téléchargées sur Photoshop. Puis j'ai fait quelques passes dessus, j'ai nettoyé, redimensionné, je les ai imprimées sur des toiles et je les ai soumises à la foire d'État. Je ne partagerai jamais mon prompt. Parce que ce prompt est précieux. Et je pense que cela prouve qu'il faut de l'habileté, du temps et de la créativité. Je n'ai jamais participé à un concours d'art auparavant. Et en travaillant sur ce projet, je me suis dit, voilà vraiment une excellente opportunité de le faire. Et je savais que je voulais prouver quelque chose en utilisant des œuvres d'art créées par une intelligence artificielle. Je ne savais pas que ça allait se transformer en une telle controverse. Il y a eu beaucoup de réactions négatives, et je pense que si j'ai reçu ces messages au vitriol, c'est parce que jusque-là, les artistes étaient dans le déni. Ils niaient l'idée que l'intelligence artificielle serait un jour capable de faire ce qu'ils font. Mais ça y est, nous vivons une époque où nous pouvons créer des œuvres récompensées en utilisant des outils d'intelligence artificielle.
Il s'agit d'une création produite par une intelligence artificielle. On fait travailler des machines, on les nourrit donc de données Donc, en l'occurrence ici, vraisemblablement, les données sont référencées, sans doute, du côté de la grande peinture traditionnelle, notamment la peinture européenne et française du XIXe siècle. La grande référence ici, qu'est-ce que c'est ? C'est Jacques-Louis David, on peut penser au sac de Napoléon, par exemple. On peut penser aussi à Gustave Moreau, il y a un effet plastique qui rappelle notamment cette toile de Gustave Moreau qui s'appelle L'Apparition. La caractéristique de cette peinture, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord, justement, la dimension spectaculaire, et puis surtout une très grande puissance d'imaginaire. C'est une œuvre assez troublante que celle-ci, sur le plan des références, parce que finalement, l'artiste, avec des moyens techniques qui normalement devraient nous éloigner à des années-lumière de ce qu'a été l'art conventionnel, eh bien, il produit quelque chose, au contraire, d'absolument conventionnel. La question qu'on peut poser, évidemment, c'est celle de la paternité de ce genre d'œuvre. À qui, au fond, les doit-on ? Est-ce qu'on les doit à des artistes qui sont des humains ? Ou est-ce qu'on les doit à des nouveaux artistes qui sont des machines ? Je crois que c'est une fausse question. Tout ça n'a rien de très nouveau. Surtout, et on doit le faire, si on l'inscrit dans ce qu'a été l'histoire de l'art technologique, c'est-à-dire de cet art fasciné par les machines. Vous avez des artistes qui ont cherché carrément à faire peindre des toiles à des machines. Vous avez, évidemment, Jean Tinguely avec ses métamatiques. Et vous avez toute une gamme d'artistes qui ont fait dessiner des ordinateurs, puis ont fait, avec l'art fractal dans les années 80, développer à des ordinateurs donc des algorithmes spécifiques, des équations, notamment de mathématiques fractales. Donc, en l'occurrence, il n'y a rien de nouveau dans cette œuvre-là. Au moment où elle apparaît, où les gens, tout d'un coup, montent sur leurs grands chevaux, en fait, ce n'est jamais que la continuité d'une très, très longue histoire, des liens féconds, en général, entre les arts plastiques, d'un côté, et la technologie la plus avancée de l'autre, dont les artistes ont toujours souhaité s'emparer d'une manière ou d'une autre. À travers les récriminations qui ont été faites à cet artiste américain, donc, on lit une sorte de nostalgie du grand art, une sorte de nostalgie d'un art qui ne devrait être fait qu'avec les mains. Je suis assez surpris de constater qu'on puisse s'étonner et se poser encore ces questions de paternité. Si vous prenez par exemple un Polaroid, dès les années 1960, eh bien voilà, vous appuyez, l'œuvre sort, elle est imprimée directement par l'appareil photo. Bon, c'est sans doute l'appareil photo qui a produit l'image, mais c'est quand même vous qui l'avez cadré, c'est vous qui avez décidé de la faire à tel moment, avec tel sujet et aucun autre.
Alors c'est intéressant d'aller voir en fait cette œuvre, parce que effectivement, comme c'est dit par l'historien dans le son qu'on vient d'écouter, c'est très conventionnel en fait. On a l'impression d'être devant une grande toile de maître assez figurative, très très classique. C'est absolument rien de révolutionnaire, c'est plutôt beau, mais voilà, c'est généré à partir d'une IA sur la base de ce qui existe en matière d'art, parce que effectivement.
Et on part des connaissances qu'on a déjà.
Exactement.
On
exactement. Donc c'est pas du tout disruptif. Voilà. Donc après on en pense ce qu'on en veut. Je trouve que le point de vue de l'historien est assez intéressant et pertinent. Maintenant, si un jour les intelligences artificielles se mettent à créer de façon autonome, on verra. Mais je pense que effectivement le véritable enjeu, il est là peut-être, parce que là. C'est utilisé simplement comme un outil.
Comme un outil, c'est
exactement.
Comme un pinceau en fait.
Exactement.
Oui, ouais. Bien sûr.
Donc ça peut être intéressant. Après, on en pense ce qu'on en veut au niveau du résultat de l'œuvre en elle-même. Encore une fois, elle n'est absolument pas révolutionnaire. Elle est belle, mais voilà, moi, ce n'est pas le genre de truc qui va m'émouvoir plus que ça non plus. Quoi. On en reste là ?
On en reste là sur l'IA.
Peut-être.
On verra.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Ciao.